bestfenêtre.fr. Ne laissez pas la chaleur s'envoler. Best Fenêtre est certifié RGE Calibat pour bénéficier des aides de l'État.
Avec la Tzedaka FSJU, unis plus que jamais.
Chaque année, grâce à votre générosité et votre engagement, plus de 20 000 familles bénéficient d'un soutien essentiel pour affronter les difficultés du quotidien. Cette année, plus que jamais, soyons unis, forts et solidaires autour du FSJU et de ses combats. Donnez sur tzedaka.fr.
Tzedaka.fr.
La Tzedaka FSJU, c'est un mois d'action pour aider, soigner et bâtir.
Participez à la plus grande campagne de solidarité et suivez-nous sur nos réseaux sociaux.
Bonsoir, c'est Gilles Bernheim. Je vous donne rendez-vous tous les dimanches de 19h30 à 20h.
Radio Shalom, la radio qui vous écoute.
La radio qui vous écoute.
Très bonne soirée à l'écoute de Radio Shalom, il est 19h.
Radio Shalom, le journal vous est présenté par Pierre Gondus.
Bonsoir. La Cour pénale internationale a émis aujourd'hui des mandats d'arrêt à l'encontre du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et de l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant. C'est la première fois que la Cour émet de tels mandats à l'encontre de dirigeants d'un pays démocratique. C'est une mesure sans précédent qui les expose au risque d'être détenus dans une grande partie du monde. L'ancien ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, qui est donc désormais visé par ce mandat d'arrêt de la CPI, a vivement réagi, qualifiant la décision d'infamie éternelle qui place sur le même plan l'État d'Israël et les dirigeants meurtriers du Hamas. Le ministre israélien, lui, des Affaires étrangères, Gideon Saar, mène actuellement une série d'entretiens téléphoniques avec des ministres des Affaires étrangères du monde entier et des ambassadeurs israéliens suite à la décision de la CPI. Les États-Unis qui rejettent fondamentalement la décision de la Cour pénale internationale d'émettre des mandats d'arrêt contre de hauts responsables israéliens, c'est ce que déclare le porte-parole de la Maison-Blanche. Un homme d'une trentaine d'années a été tué en Israël après avoir été touché par des éclats de missiles dans un parc de Nahariya au nord d'Israël. Le Liban, qui a demandé ce soir des modifications significatives à la proposition de cessez-le-feu américaine, à ces changements discutés lors des rencontres avec le médiateur américain Amos Hochstein cette semaine à Beyrouth, concerne principalement deux points. Un retrait plus rapide des forces israéliennes du Sud-Liban et la garantie du droit à l'autodéfense pour les deux parties. Et en visite dans le nord d'Israël, Benny Gantz a durci le ton, lui, face au Liban. Si le gouvernement libanais n'est pas prêt à accepter un accord permettant à l'armée israélienne la liberté d'action face aux violations, nous devrons étendre nos frappes aux infrastructures de l'État libanais. C'est ce qu'a déclaré le leader de l'opposition israélienne. Un nouveau sondage réalisé par Ipsos pour le CRIF révèle que de plus en plus de Français exprime des opinions anti-juives. 46% d'entre eux adhèrent aujourd'hui à plus de 6 préjugés anti-juifs. Ils étaient 37% en 2020 et parmi ces préjugés, 23% des sondés pensent que les juifs ne sont pas vraiment des Français comme les autres. Et puis, un autre sondage, le baromètre annuel du fait religieux en entreprise, qui a été publié aujourd'hui par l'Institut Montaigne, fait état d'une forte hausse de situations et de comportements liés à la religion. La place de l'islam y est en nette progression. Les salariés qui constatent la plus forte dégradation de leurs conditions de travail sont les juifs. Le judaïsme est ainsi repéré comme la religion la plus souvent concernée par des situations de discrimination et de stigmatisation. Bonsoir à toutes et à tous. La Cour pénale internationale a donc émis aujourd'hui des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et de l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant. Je vous le disais, c'est la première fois que la CPI émet de tels mandats à l'encontre de dirigeants d'un pays démocratique. C'est une mesure sans précédent qui les expose au risque d'être détenus dans une grande partie du monde. N'est-ce pas, Yael Ifra ?
Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant sont de facto aujourd'hui enfermés en Israël. 124 pays sont donc signataires de la convention avec la Cour pénale internationale, même si, comme vous l'avez dit, certains pays ont déjà dit qu'ils n'appliqueraient pas ou qu'ils ne s'engageaient pas forcément à appliquer. Le Canada aussi, il y a quelques instants, a déclaré qu'il appliquerait la décision. C'est un véritable coup de tonnerre, d'autant plus que dans cet arrêt, les dirigeants israéliens sont mis au même rang que les dirigeants du Hamas et que la Cour fait semblant de ne pas savoir que Mohamed Def a été éliminé par Israël. Tout ça parce que le Hamas n'a pas annoncé sa mort, alors qu'Israël avait évidemment des preuves très claires, des preuves ADN de sa mort. Donc ça permet de créer un faux semblant d'équilibre. Évidemment, s'il n'y avait eu que les leaders israéliens, ça aurait été un peu plus gênant, mais quoi qu'il en soit, en Israël, certainement la stupeur a frappé, même si les commentateurs politiques font savoir que Netanyahou a déjà dit il y a plusieurs mois qu'il savait de façon pratiquement sûre que les mandats seraient émis. Israël a tenté toutes sortes de choses et de pressions, y compris dernièrement une affaire qui est sortie avec un timing un peu particulier sur le procureur Karim Khan, comme quoi il aurait été accusé de harcèlement sexuel. Enfin, on imagine bien que pour Israël, ce précédent est absolument catastrophique. D'une part, évidemment, au-delà des aspects moraux, qu'on peut évidemment qu'il faut rappeler, qui est de mettre dos à dos l'agresseur et l'agressé, d'estimer, alors que Israël fait très très attention en termes de droit international, que l'armée est suivie par des juristes pour chaque frappe, qu'un dossier est constitué avant chaque frappe. La Cour estime que Netanyahou et Gallant ont délibérément privé la population civile de Gaza de ressources essentielles à sa survie, des crimes contre l'humanité, donc des accusations qui sont quand même très grave. D'autant plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux ordres, les deux mandats qui ont été émis envers Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant sont ceux que l'on connaît, mais il y en a bien d'autres parce que la Cour a le droit au secret. Elle peut avoir émis des centaines, voire des milliers, je ne sais pas si c'est le cas, mais évidemment bien plus de mandats d'arrêt internationaux contre des personnes qui ne le savent pas et qui donc, lorsqu'ils voyageront, peuvent être arrêtés à leur entrée d'un pays sans savoir qu'ils étaient victimes de ce mandat d'arrêt. Donc c'est d'autant plus grave. Et le tribunal donc n'a rendu l'existence des mandats de Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant public que pour entre guillemets pour leur faire pour les respecter, parce que ce sont des très hauts dirigeants. En tout cas, les réactions ne se sont pas fait attendre. Évidemment, le cabinet du Premier ministre qui a tout de suite déclaré que la décision antisémite de la Cour pénale internationale, je cite, équivaut à une version moderne de l'affaire Dreyfus et qu'elle se terminera de la même manière, qu'il n'y a pas de cause plus juste que celle de la guerre qu'Israël mène à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Le président de l'État, Yitzhak Herzog, qui écrit « C'est un jour sombre pour la justice, un jour sombre pour l'humanité, une décision absurde qui ignore la terrible détresse des 101 otages israéliens qui se trouvent entre les mains du Hamas à Gaza. » Évidemment, tous les ministres du gouvernement ont également réagi. Yoav Gallant, il y a quelques minutes également, disant que c'est une tâche morale qui restera sur la conscience du monde. C'est aussi, il faut le rappeler, un échec vraiment retentissant de la stratégie juridique israélienne et du conseil juridique au gouvernement, qui ont louvoyé, tenté de négocier, puis tenté d'ignorer la Cour pénale, n'ont pas forcément été extrêmement performants. Rappelons, aujourd'hui, c'est évidemment pas le moment de dire des choses comme ça, mais que quand même, la conseillère juridique au gouvernement avait mis en garde de nombreuses fois le gouvernement qu'il fallait absolument créer une commission d'enquête nationale étendue, qu'il fallait mettre en examen les soldats qui avaient commis des abus et qui se filmaient sur les réseaux sociaux, que l'on a vu tous, qu'il fallait absolument punir sévèrement toute entrave au droit international et toute infraction, parce que si nous le faisions nous-mêmes, cela évidemment retirerait une assise à cette Cour pénale pour s'occuper d'Israël. Et je termine en disant que pour Israël, il y a des conséquences très très lourdes aujourd'hui. Parce que tout officier, tout soldat, tout combattant pourrait désormais donc être arrêté à l'étranger, que des organisations pro-palestiniennes ou des groupes de gauche radicale pourraient intensifier leurs efforts pour demander des arrestations et les obtenir, que ces mandats ont abaissé des barrières psychologiques et juridiques dans le monde pour encourager d'autres juridictions en Europe, en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, n'importe où, à accepter plus facilement ce type de requêtes. Donc c'est pour ça que ce précédent absolument catastrophique pour Israël doit doit être traité avec la plus grande, le plus grand sérieux, que les juristes doivent cette fois-ci essayer de saper les arguments de la Cour, de convaincre un maximum de pays de ne pas appliquer ce décret, et peut-être éventuellement avec l'aide de l'administration Trump, qui va rentrer donc très bientôt en place, qui finance aussi ce tribunal, entre autres, faire pression pour soit faire revoir l'arrêt, soit le faire réviser, soit le faire casser. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est certainement un jour très sombre pour l'État d'Israël.
Yael Ifra, l'une de nos correspondantes permanentes en Israël, et le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, qui enfonce le clou ce soir en appelant tous les États membres à honorer leurs engagements envers le statut de Rome concernant les mandats d'arrêt qui ont été émis aujourd'hui. Il a également invité les États non membres à collaborer pour faire progresser la responsabilité et faire respecter, dit-il, le droit international. Un nouveau sondage réalisé par Ipsos pour le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, révèle que de plus en plus de Français expriment des opinions anti-juives. 46% d'entre eux adhèrent aujourd'hui à plus de 6 préjugés anti-juifs. Et parmi ces préjugés, 23% des sondés pensent que les juifs ne sont pas vraiment des Français comme les autres. Sachez d'autre part que plus de 17% des moins de 35 ans sont favorables au départ des Juifs de France, jugeant que ce serait une bonne chose pour le pays, et 12% des Français, toutes catégories confondues, se réjouissent de voir les Juifs quitter le pays. Ils étaient 6% en 2020. Et nous a rejoint dans les studios de Radio Shalom, Jacques-Yves Bobot, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Jacques-Yves Bobot, on va commenter avec vous, comme on le fait chaque semaine, toute l'actualité la plus récente, et c'est bien sûr l'information du jour, l'annonce par la Cour pénale internationale d'un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, l'ancien ministre israélien de la Défense Yoav Gallant et le chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Diff, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Au passage, on rappelle qu'Israël avait annoncé au mois de juillet dernier avoir tué Mohamed Deif.
Oui, c'est vrai Pierre. D'abord, on peut regretter déjà une chose, une tentative d'utiliser le droit pour faire de la propagande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaie d'inventer des mécanismes juridiques totalement farfelus pour mettre en cause Israël. Y a-t-il un mandat d'arrêt contre le président chinois qui martyrise les Ouïghours? Y a-t-il un mandat d'arrêt contre le président iranien qui persécute les femmes? La liste est longue, tant les dictatures sont nombreuses, et plus nombreuses que les démocraties. Il y a ensuite quelque chose d'assez sidérant. En gros, c'est une démocratie qui a été victime d'un crime contre l'humanité qui est poursuivi à la haie. Il ne faut pas être dupe, ni de la manœuvre, et surtout ni du calendrier.
Alors, à quoi pensez-vous ?
D'abord, la manœuvre, elle fait partie d'une mécanique qui souhaite mettre en place les antisémites de tous bords. D'abord, depuis 80 ans, l'Occident tout entier avait élevé l'antisémitisme comme un tabou suprême parce qu'il avait conduit à la Shoah. Toute la rhétorique islamo-gauchiste consiste à expliquer que les Juifs commettent eux-mêmes une Shoah et que les attaques contre les Juifs ne sont pas de l'antisémitisme, mais une lutte contre des criminels.
Et sur le calendrier ?
Ne soyons pas dupes aussi, Pierre. C'est aussi une provocation envers Donald Trump et sa réélection. Donald Trump qui a promis un soutien indéfectible à Israël et qui a nommé dans sa future administration de nombreuses personnalités qui sont clairement pro-israéliens.
L'hebdomadaire Le Point titre ce matin, s'agissant de l'étude sur l'antisémitisme commandée par le CRIF, la France à l'heure de l'antisémitisme décomplexé. Quand on lit ce sondage, cela fait froid dans le dos.
Absolument Pierre, absolument. J'étais comme vous glacé par la lecture du sondage et de l'article du Point. Il y aura bien sûr de nombreux commentaires. Il y a trois points qui sont assez dingues. Le premier, 46% des sondés adhèrent à plus de 6 préjugés anti-juifs. Il n'était que 37% en 2020. Un quart des Français pensent que les Juifs ne sont pas vraiment des Français comme les autres. Vraiment, c'est complètement sidérant. Deuxième point, c'est la jeunesse. qui est contaminé à l'antisémitisme version YouTube des Dieudonné des Soral, seulement 53% des jeunes de 18 à 24 ans considèrent que la majorité des Français est bien intégrée dans la population. Ça veut dire que...
Des Français juifs, hein. Des Français juifs.
Je pense l'inverse. Et pire, alors là, c'est complètement affolant et renversant. 35% des jeunes pensent que le départ des juifs serait une bonne chose. Évidemment, pour comprendre ces chiffres effarants, il faut se pencher sur les opinions des sympathisants LFI que l'étude de l'Ipsos a regardée. Et qu'est-ce qu'elle nous apprend ? Que 20% d'entre eux souhaitent le départ des juifs de France. Étonnant pour un parti hostile à l'expulsion des OQTF. Un tiers des sympathisants LFI adhèrent à plus de 9 stéréotypes anti-juifs et ils sont 55% à adhérer à plus de 6 stéréotypes anti-juifs. Ce que nous racontons depuis 7 octobre est prouvé par ces chiffres. LFI agit comme un incendiaire de la nation pour chercher à prendre le pouvoir. Ils ont fait le choix de détruire les institutions politiques et morales. Ils sapent le fonctionnement de la nation par leurs outrances. Ils exactent les plus bas instincts, notamment auprès de la jeunesse, beaucoup moins instruite que sa devancière. Et là, et c'est peut-être le plus grave, Pierre, c'est qu'on paye l'abandon du système éducatif dans les territoires perdus de la République, mais pas seulement. La porosité de trop de médias, d'intellectuels aux thèses de l'extrême-gauche a contribué à modeler une génération qui considère l'antisémitisme comme cool et la Shoah comme un vieux truc ringard exagéré par les parents. Aujourd'hui, il faudrait se mobiliser à tous les niveaux, il faudrait un sursaut national, il faudrait aucune tolérance contre les semeurs de haine, parce que l'antisémitisme, ce n'est pas une liberté, c'est le cancer de notre société.
Jacques-Yves Bobotte sur Radio Shalom, merci d'avoir été avec nous. Bonsoir Jacques-Yves.
Bonsoir Pierre.
Et on va marquer une pause dans cette édition. On se retrouve dans un instant avec la revue de la presse arabe signée Annie-Paul Derjanski.
Radio Shalom, la radio qui vous écoute.
La radio qui vous écoute.
Orte France est un réseau d'écoles présent à Lyon, Marseille, Montreuil, Paris, Strasbourg, Toulouse et Villiers-le-Bel. Plus de 40 formations diplômantes dans les domaines du tertiaire, du paramédical, du digital, de l'énergie et de la mode. Orte France promet un enseignement de qualité du collège au bac plus 5 en initiale ou en alternance depuis plus de 100 ans, permettant à 86% de nos étudiants d'obtenir leur diplôme en 2022. Orte France, c'est aussi un réseau d'entreprises partenaires dynamiques qui accompagnent nos jeunes dans leur démarche. Marge de stage et d'emploi. Faites le choix de la réussite. Choisissez Orte France.
Inédit en France, le guide des écoles juives enfin sur Internet. Le guide des écoles juives.com est le premier portail Internet dédié aux écoles juives. En un clic, trouvez l'école juive la plus proche de chez vous. Une véritable innovation dans le monde de l'éducation.
Retrouvez toutes les infos des écoles, leur actualité et les projets pédagogiques détaillés sur le guide des écoles juives.com. A très vite sur le web.
Le guide des écoles juives.com est un site proposé par l'association Choisir l'école juive.
Il y a des salles de bain qui font vraiment rêver.
Bain et déco.
Il y a des cuisines où l'on se prendrait volontiers pour un chef étoilé.
Bain et déco.
Et si c'était le moment de changer ? Nos architectes et artisans qualifiés Bain et déco conçoivent et réalisent votre projet de A à Z. Des produits avant-gardistes, des marques prestigieuses et un vrai savoir-faire. Pour une seule ambition, l'exception.
Bain et déco, deux showrooms de plus de 500 mètres carrés à Paris 11e et Boulogne-Billancourt. Et venez découvrir notre nouveau showroom, 212 boulevard Saint-Germain, Paris 7e.
Bain et déco.
Bonjour à tous, c'est Marc Scalia. Retrouvez-moi du lundi au jeudi de 19h30 à 20h sur Radio Shalom pour M comme musique. Au programme, de la musique bien sûr, d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi des infos people et des invités du monde artistique. A très vite sur Radio Shalom 94.8.
Vous êtes sur Radio Shalom. Le journal vous est présenté par Pierre Gandus.
Et l'on retrouve la revue de la presse arabe avec vous, Annie-Paul Derjanski. Bonsoir.
Bonsoir Pierre, on commence avec le journal saoudien Ashar Kalwazat et qui nous commente la visite donc du négociateur américain Amos Hochstein à Beyrouth. Un des hauts médiateurs américains a déclaré ce mardi il existe une réelle opportunité de mettre fin à la guerre entre Israël et le Hezbollah. Les écarts se réduisent, les efforts de Washington portent un progrès pour aboutir à un cessez-le-feu. La fenêtre d'une décision de résolution est pour les prochains jours, a déclaré Hochstein lors de sa conférence de presse de mardi. Navi Berri, le porte-parole du Parlement, a déclaré à Achar Kelwazat « La situation est bonne sur les principes ». Quelques détails du cessez-le-feu restent à peaufiner, y compris les détails techniques. Eli Cohen, ministre de l'énergie israélien, aurait déclaré « Israël donnera son accord si le Hezbollah s'éloigne de la frontière ». Le Hezbollah est de longue date allié à Navi Berri, le porte-parole du Parlement libanais. Le Liban a rejeté la demande d'Israël de liberté totale d'action, exigence si le Hezbollah attaque ou se renforce, a précisé Eli Cohen. Le cessez-le-feu serait basé sur la résolution 1701. Le Hezbollah devrait rester à 30 km de la frontière. Ali Hassan Khalil, proche du conseiller de Berri, le plus proche conseiller politique de Berri, a déclaré ce lundi, le Liban affirme sans détour adhérer à la résolution 1701 avec toutes ses modalités d'application. Ce à quoi a répondu Naïm Kassem, le nouveau secrétaire général du Hezbollah, dans une conférence de presse ce mardi à 16h. Nous faisons face à un ennemi sauvage, nous resterons sur le terrain, nous augmenterons le coût pour l'ennemi. Nous faisons face à des humains qui sont des monstres israéliens, soutenus par des monstres humains américains. La résistance a œuvré à éliminer l'ennemi, Israël ne peut pas nous vaincre. Nous avons bien étudié les négociations, nous avons formulé nos remarques. Navi Berri a présenté les siennes, elles sont en accord avec les nôtres. Nous avons négocié selon deux principes, c'est toujours Nassim Kassem qui parle, cessez-le-feu total, préservation de la souveraineté libanaise. Nous continuerons sur le terrain, que les négociations réussissent ou non. L'occupation pensait obtenir un accord, mais cela est impossible. Puis il termine par « Israël a attaqué le cœur de Beyrouth ». La réponse sera portée au centre de Tel Aviv. Nous poursuivons avec le journal Ici Beyrouth et l'information que Edward Algrim, conseiller principal au ministère anglais de la Défense, lance un appel urgent pour le cessez-le-feu. La médiation de la dernière chance aurait été la visite de Hochstein. Cette affirmation aurait été comprise pendant l'entretien avec Navi Berri, alors que des bandes organisées étaient en train de piller les maisons du sud du Liban. Hochstein n'est pas venu discuter le plan, mais son détail d'exécution. Et cela revient dans toute la presse libanaise. Il ne s'agit pas de discuter le plan en soi, mais de discuter son mode d'exécution. Les remarques libanaises sont transmises par Hochstein ce jeudi à Benjamin Netanyahu. Nuance, importance, insiste ici Beyrouth, c'est que ce soit les détails qui soient discutés. La formation pro-iranienne, écrit ici Beyrouth en parlant du Hezbollah, est décapitée, affaiblie. C'est elle qui a entraîné le pays dans une guerre destructive. Elle ne peut plus imposer ses convictions, même s'il continue de répéter à l'envi le contraire. La feuille de route américaine est à prendre ou à laisser. Hochstein l'aurait fait comprendre à Navi Berri, selon un officiel politique off qui assistait à l'entretien. Il s'agit donc de l'application de la 1701, du contrôle strict des frontières pour empêcher le réarmement du Hezbollah. Ce contrôle strict serait effectué par la FINUL plus l'armée libanaise qui garantirait la frontière et la sécurité israélo-libanaise. L'armée libanaise doit démanteler la branche paramilitaire du Hezbollah et démilitariser tout le Liban Sud. Et le renversement de situation, parce que après avoir fait sa conférence de presse et déclaré toutes ses diatribes, on sait que Naïm Kassem accepte d'appliquer la 1701, mais demande le retrait total d'Israël au sud une fois le cessez-le-feu proclamé. Des observateurs internationaux pourraient assurer la mission de distanciation des deux côtés de la frontière, toujours selon une source politique off qui s'exprime auprès des différents médias libanais. On poursuit avec L'Orient le Jour, quotidien libanais. Tel Aviv n'a aucune excuse pour rejeter la proposition libanaise. Israël veut neutraliser toute force qui lui résiste avec le soutien des États-Unis. Washington et Israël veulent mettre fin au conflit, dit la source politique libanaise de façon off. le Hezbollah et le bras du Liban et considère cela comme une étape de conflit. La grande bataille n'a pas encore sonné, aurait déclaré le prédécesseur de Naïm Kassem, Hassan Nasrallah. Contradiction entre deux objectifs, il y a une oscillation de termes entre cessation des hostilités ou cessez-le-feu. Le Liban, lui, insiste pour un retour à l'armistice. Israël chercherait à gagner du temps et de l'autre côté, côté libanais, on refuse d'accepter un fait accompli israélien. Il reste donc des points complexes à régler. Sur le côté Liban, il s'agit du monopole d'État sur les armes. Et là, il faut appliquer la résolution 1559, résolution du Conseil de sécurité, qui impose le désarmement de toutes les milices. Toujours un responsable officiel qui s'exprime de face off et qui parle d'une possibilité israélienne d'une intervention en Irak pour bloquer l'approvisionnement du Hezbollah. Interrogation de l'Orient le jour, l'armée libanaise peut-elle désarmer le Hezbollah ? L'armée, plus Israël, plus la France, plus les États-Unis, plus la France intérimaire des Nations Unies pourraient coopérer à cette fin. Réponse de l'armée libanaise à la question « Est-elle en capacité de désarmer le Hezbollah ?» Oui, mais si on a le feu vert du Hezbollah, ce qui est un petit peu contradictoire. L'armée pourrait toutefois relever le défi et pourrait y être aidée par des États arabes dont il n'a pas encore été mentionné lesquels et qui feraient partie également du comité de surveillance. Nabi Berri, le porte-parole du Parlement libanais, refuse par contre la présence de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne dans le comité de surveillance au motif qu'ils sont trop proches de Tel Aviv. Paradoxalement, il accepte l'ami de toujours d'Israël, écrit la presse libanaise, les États-Unis. Mais la patate chaude passe de main en main, écrit la presse libanaise, et roule. Tout va maintenant dépendre de la réponse israélienne. Pierre, notre revue de presse arabe, terminée, consacrée à cette donc, négociation de la dernière chance entre Israël et le Liban. Je vous dis à la semaine prochaine.
Revue de la presse arabe signée Annie Paul Derjanski. Et puis le Liban qui a demandé ce soir des modifications significatives à la proposition de cessez-le-feu américaine. Ces changements discutés lors des rencontres avec le médiateur américain Amos Sunstein cette semaine à Beyrouth concernent principalement deux points. Un retrait plus rapide des forces israéliennes du Sud-Liban et la garantie du droit à l'autodéfense pour les deux parties. Le Liban souhaite voir les forces israéliennes se retirer immédiatement après la déclaration de cessez-le-feu pour permettre à l'armée libanaise de se déployer dans toutes les zones et faciliter le retour des déplacés. Ces demandes suggèrent qu'il reste encore du travail à faire pour finaliser l'accord que Amos Hochstein qualifiait d'apportée de main il y a encore quelques heures. Et puis sur le terrain, c'est une quatrième vague de frappes aériennes israéliennes sur la vallée de la Beka qui a eu lieu aujourd'hui dans l'est du pays, ayant coûté la vie à 22 personnes selon les autorités libanaises qui, comme le Hamas, ne font pas le distinguo entre civils et terroristes du Hezbollah. L'armée israélienne qui a annoncé avoir mené également des frappes dans la banlieue sud de Beyrouth visant plusieurs quartiers généraux du Hezbollah. Selon le porte-parole de l'armée israélienne, ces frappes aériennes guidées par les services de renseignement s'inscrivent dans l'effort de destruction des infrastructures et des dépôts d'armes que le Hezbollah a établi au cœur de Beyrouth. Et puis, en visite aujourd'hui dans le nord d'Israël, Benny Gantz a durci le ton face au Liban. Si le gouvernement libanais n'est pas prêt à accepter un accord permettant à l'armée israélienne la liberté d'action face aux violations, nous devons étendre nos frappes aux infrastructures de l'État libanais. C'est ce qu'a déclaré le leader de l'opposition israélienne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous écoutez Radio Shalom. Surtout, ne changez rien. Il est là dans les studios de Radio Shalom en espérant que son micro est bien ouvert. Marc Scalia, bonsoir.
Absolument.
Eh ben voilà, j'ai bien fait de le dire.
Incroyable.
J'ai bien fait de le dire.
On prend à peine l'antenne et ça y est, tu chutes. Non, je rigole, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on a la meilleure réalisatrice du monde. Il faut que vous le sachiez. Oui, sinon, tout va bien.
Tout va bien. Et alors, l'invité de Marc ce soir.
Je suis pas venu en luge. Hein.
Oui, ah ben oui, parce qu'aujourd'hui, de quoi de, c'était à peu près 9h30, 10h. Et ça n'a pas arrêté jusqu'à il y a une heure.
Il reste 1,5 cm. J'ai calculé en bas.
Ah ben, ouais. Vous avez pris le double décimètre.
J'ai pris le double décimètre. Donc, je suis bien arrivé. Et d'ailleurs, on s'est croisé avec mon invité de Marc, qui n'est autre qu'avocat. Mais attention, ça c'est son premier métier. Il a une double casquette, voire une triple. Il va peut-être nous en trouver une autre. Mais en tout cas, pour l'instant, on est sur la double casquette. Il est avocat. Et il y a 15 jours, j'ai reçu un chanteur, un artiste, qui est d'ailleurs aussi avocat.
Oui, et bah,
donc,
comme quoi.
C'est des vocations.
C'est ça.
Bon. Voilà, donc ils se connaissent un peu. Et puis on va parler surtout de son concert, parce qu'il a un concert prévu d'ici une quinzaine. Deux jours, trois semaines, voilà exactement à Paris.
Bon, on va découvrir tout ça avec vous. L'invité de Marc, c'est tout de suite, c'est en direct, c'est sur Radio Shalom. Et c'est avec Marc Scalia, il est 19h30, très précise, bonne émission Marc.
Merci Pierre de toutes ces infos précieuses, bien sûr, à demain, 19h30.
Radio Shalom, l'invité de Marc.
Medley.
Ça rigole pas. Hein.
Comme artiste.
On est les seuls à avoir une réalisatrice.
R comme remix.
Sur toute la bande FM, c'est tombé sur nous.
C'est comme crazy. Au total, votre disque jockey se prénomme Marc.
Marc Scalia. Oh, c'est Schtroumpf.
Mais oui, c'est Schtroumpf, et vous êtes Schtroumpf également, tout en bleu, mon invité de marque, justement, et vous êtes aussi, j'espère, fan de cette couleur, moi, en tout cas, c'est ma couleur préférée. Très heureux de vous accueillir, Marc Scalia, invité de marque, aujourd'hui, nous accueillons donc Neil. Bonsoir Neil.
Bonsoir Marc.
On t'a déjà reçu d'ailleurs, il y a à peine 6 mois.
Oui.
Et
oui.
Tu faisais déjà une première scène.
Exactement, j'avais 2 concerts à l'époque aux Zèbres de Belleville qui ont très bien fonctionné.
Oui.
Et depuis, je continue mon petit bonhomme de chemin.
D'accord, moi j'ai été te voir en concert. La vérité, toi, moi je suis pas fan des concerts, je reste un quart d'heure, 20 minutes. Je suis resté jusqu'à la fin.
Eh ben écoute, merci.
Donc, parce que j'ai vu l'ambiance qu'il y avait, c'était aux Zèbres de Belleville,
c'est ça.
Crois, hein, c'est ça, j'avais bonne un soirée. Bon souvenir. Alors, artiste atypique, c'est vrai, hein, quelque part, parce que. Même si j'en ai reçu un comme toi il y a 15 jours, lui démarre plus ou moins sa carrière. Toi, tu l'as depuis quelques années. La passion était venue quand ?
Oh, la passion, elle était tout présente jeune. Tout jeune, mais je fais de la musique sérieusement depuis 2 ans.
2 ans. Ouais. Ça veut dire répétition toutes les semaines ?
Non, pas toutes les semaines, mais régulièrement. Alors, écriture, quand ça me vient, il peut se passer des semaines sans écrire, et puis parfois je peux écrire 2 jours d'affilée. Non, c'est vraiment quand ça me vient. J'ai pas de pression. Hein. Aucune pression. Et puis, mais bon, je suis quand même assez productif puisque à ce jour, depuis 2 ans, j'ai écrit à peu près 30 de chansons. Un album est sorti, il y en a 15, et puis il y en a d'autres. D'ailleurs, on va en écouter une qui n'est pas sortie.
C'est prévu dans l'heure, justement. Tu es amoureux de la chanson française, ça s'entend, ça s'écoute. De toute façon, on va s'en apercevoir. En apercevoir tout à l'heure. Ton travail s'inscrit dans la lignée des chanteurs français à texte comme Souchon, William Scheller.
Un maître, oui, Souchon, Scheller.
Gabrel aussi.
Gabrel, oui, bien sûr.
Et Jonas n'en parlons pas.
Ah, ben Jonas, on lui donne.
Oui, on va en parler parce que tu devais. Bon, alors, on va en parler tout de suite. Tu devais faire la première partie de Michel Jonas à l'occasion de la Tzedaka le 9 décembre à l'espace Broca et.
Et on a appris il y a quelques minutes que ce concert était reporté au début de l'année 2025. Bon voilà, ça arrive dans les organisations, les télescopages d'agenda, des emplois du temps compliqués. Donc le concert aura bien lieu, je serai en première partie, mais ce sera début 2025.
Début 2025, mais de toute façon, je peux comprendre, il est au théâtre en ce moment.
Oui, il a plein d'activités, il vient de sortir un album, il prépare une tournée aussi sur ce nouvel album où il remasterise tous ses anciens morceaux. Et puis voilà, oui, il a un agenda très chargé, donc... Il y a eu un problème d'agenda et le concert est reporté.
Bon, on en a parlé, ça y est, donc le 9 décembre s'est remis à une date ultérieure, comme on dit. Et comme nous t'avions reçu, je le disais en début d'émission, il y a quelques mois pour la sortie de ton album Petit Être Humain. Mmh. Voilà, d'ailleurs c'est celle qu'on a mis plus ou moins, non c'est Si Bien qu'on avait mis sur la story.
Oui.
Qui est une bonne chanson, hein, Si Bien.
Hein, ah bah, je merci. Sais
pas, c'est une très bonne chanson. Alors, on a bien aimé l'album. Juste avant d'écouter, qu'est-ce qui t'a amené à la chanson?
Bah, je te dis, je suis amoureux de la chanson française. Les textes m'emportent, les mélodies qui se plaquent sur les textes m'emportent. Je trouve qu'on a une tradition en France de la chanson vraiment qui m'a toujours habité. Et puis, j'habite à côté d'une forêt. Je okay. promène mon chien pendant des heures.
En puis, région parisienne.
En région parisienne, oui. Je suis pas parisien, je suis banlieusard, mais j'habite à côté d'une forêt.
Oui.
Et puis, dans mes vagabondages réguliers, il y a des mots qui me viennent. Et puis, tu sais comment Brassens trouvait ses mélodies?
Non, tu vas me le dire.
Eh bien, Brassens, il composait ses poésies et puis il répétait toute la nuit ses poésies et la rythmique des mots amenait la musique. Eh bien, je suis pas Brassens, évidemment, j'aimerais l'être un jour. Mais c'est un peu comme ça que c'est venu. Les mots sont venus, puis après les musiques, petit à petit. Et puis voilà, les chansons sont venues, les unes après les autres.
C'est bon à savoir, tu apprends des choses des auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Hein. Donc, pour ce qu'on est en première chanson qu'on a choisie, justement, c'est Si Bien.
Ouais, voilà, une chanson d'amour.
Ouais, c'est une belle chanson d'amour. C'est vrai que t'es amoureux de la chanson. C'est vrai que tu écris super bien. Hein.
Bah merci, ça me fait plaisir.
Donc, tu peux te comparer à des Souchon ou à des Scheller.
Écoute, je vais pas me comparer. Je vais pas me comparer, mais si je peux faire partie d'un petit lot où mon nom il va être juste à côté en petit, à côté d'eux, bah je serai très heureux.
Allez, on l'écoute tout de suite et on en parle juste après. Si Bien, donc, mon invité de marque, c'est Neil ce soir sur Radio Shalom. Merci d'être là. En tout cas, on va faire un petit live.
Merci, avec Marc.
T'adore.
Sur ces photos, papier jauni, je vois deux gosses de mômes et puis. Complice, candeur exquise, ces 17 ans qui électrisent, et viendra l'heure où nos deux cœurs appuieront sur le starter, se sont lancés sans pouffer rire, ces jeunes mariés vont devenir. Trois francs six sous au fond des poches. À 25 ans, y a rien qui cloche. Et il salue tous les matins la chance d'avoir un ange gardien. Parce qu'on est bien, si bien. La vie nous deux, c'était écrit, c'était certain. La vie sans toi, la vie serait vide, la vie serait rien. Si bien, la vie nous deux, c'était écrit, c'était certain. Si bien, la vie sans toi, la vie serait vide, la vie serait rien. Irrésistible, les grains de poussière. Un peu la lumière, le temps passé à épargner leurs mots d'amour et leurs baisers. Pas de rupture, pas de doublure, comme protégé par une armure. Parce qu'on est bien, si bien. C'était certain, si bien. La vie sans toi, la vie serait vide, la vie serait rien. Si bien. La vie nous deux, c'était écrit, c'était certain. Si bien. La vie sans toi, la vie serait vide. À la vitesse de la lumière, la belle affaire. Et puis toujours sur leur chemin, leurs corvilles tiendront la main à l'heure du générique de fin. Le monde entier.
bien, si bien. La vie nous deux s'était écrit, c'était certain. Si bien, la vie sans toi, la vie serait vide, la vie serait rien. Si bien, la vie nous deux s'était écrit, c'était certain. Si bien.
Bien à l'instant sur Radio Shalom, si bien signé Neil que je reçois, c'est mon invité de marque, Neil de Cascade. Je le répète très souvent.
Parce ouais, je peux que te faire une petite précision sur cette chanson.
Ah oui, c'est important, bien sûr.
Bien, cette chanson, elle était sortie avec mon album il y a une petite année, presque une petite année, dans une toute autre version. Mais comme le 11 décembre, je fais un concert qui sera acoustique.
Au
comme,
Sunset.
Au Sunset, voilà. Les musiciens disent on va jouer en bois, ce sera vraiment un son très unplugged. Du coup, on a réenregistré la chanson. En mode acoustique.
Ah oui.
Et donc, il y a deux versions de cette chanson. Et là, on vient d'écouter la version acoustique très épurée.
Oui, c'est vrai que c'est pas la même qu'on a écoutée il y a quelques mois. J'avais remarqué. Alors, écoute, ça sera le 9 au Sunset. L'adresse du Sunset.
C'est à Châtelet, alors je connais pas le nom de la rue. Rue des Lombards, voilà.
Rue des Lombards, rue des Lombards. C'est très, c'est très bobo là-bas. Oui. C'est très, t'es café, théâtre, c'est, oula, ça rigole pas au Châtelet. C'est le 9 décembre. Non, c'est le 11 décembre. Décembre. Mercredi 11 décembre à partir de 20h.
Exactement.
Il n'y a aucun souci. Donc, j'entends également dans ta musique non seulement l'importance des mots, de la poésie, c'est vrai, mais également une petite patte de pop folk un peu rétro. Pourquoi ce choix d'arrangement ?
Écoute, j'ai quelques heures de vol. Voilà, j'ai pas 20 ans, 25 ans, donc on a nos références. Moi, mes références, c'est la musique pop-folk. Les sons que j'écoutais, d'ailleurs, je dis les sons comme les jeunes, nous, on disait la musique.
Ouais.
C'était Paul Simon, Simon Garfunkel, les Beatles. Et c'est vrai que ce son-là, je l'ai recherché quand on a arrangé avec... mon arrangeur Ruben Lévy, un très grand musicien, cet album, on a cherché à retrouver ces sons un peu rétro avec des guitares acoustiques et c'est le son que j'aime.
Mais il y a de quoi, de toute façon. Et donc, on en écoutera le 11 décembre, je suppose.
Oui, le 11 décembre, ce sera vraiment un concert acoustique. Alors, ça va quand même groover un peu, je l'espère, mais ce sera vraiment unplugged.
Alors, depuis la sortie de ton dernier album, depuis ton dernier concert, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu as fait de nouveaux concerts ? Est-ce que tu as composé de nouveaux morceaux ?
Oui, j'ai composé d'autres morceaux. D'ailleurs, on va en écouter un tout à l'heure. Il y en a d'autres qui sont en cours de production. J'ai contacté pas mal de programmateurs. Il y a des concerts qui sont en programmation en 2025. Je répète pas mal. Et puis, je suis pas mal aussi en studio, justement, pour produire les prochains morceaux. Et j'espère un prochain EP ou un prochain album courant 2025.
Tes musiciens te suivent dans n'importe quel concert que tu puisses faire. Tu avais aussi deux choristes sympathiques, dont ta fille.
Oui, alors ma fille sera présente au Sunset.
D'accord.
Mais comme c'est un concert qui va être épuré, et ben justement, on va avoir moins de choristes. Il y aura uniquement ma fille qui sera choriste.
D'accord.
Et, parce que c'est l'ambiance confinée, boîte de jazz... rien à voir avec le Zèbre de Belleville qui appelait davantage de musiciens.
Combien de places
Une centaine de places.
Combien, une centaine ?
Oui, une centaine de places, donc. Et il en reste environ 45. Donc,
ah oui, il faut se dépêcher là.
J'invite les auditeurs à prendre leur place rapidement.
44, parce que je vais être là.
Ah bah oui, non. Bien sûr, tu es toujours invité, Marc.
C'est toujours Châtelet, donc rue des Lombards, c'est le Sunset, c'est le concert de Neil, qui est, on peut le dire, un très fan de Michel Jonas, incroyable.
Ah, moi je
depuis
suis très
toujours.
Fan. Oui, comme je dis toujours, je suis un Jonasologue, c'est-à-dire qu'on peut me poser n'importe quelle question sur n'importe quel album de Jonas. Je pense que je suis capable de répondre à tous les quiz sur Michel Jonas.
On t'en prépare un peut-être avant la fin de l'émission, justement.
Et autant te dire que quand le FSJU m'a appelé pour m'inviter en première partie de Jonas, alors là, c'était un rêve de gosse, vraiment.
Ah, carrément, oui. Et c'est bien dommage qu'il ait reporté, mais bon.
Non, c'est pas dommage, parce que ce concert aura lieu, il aura lieu en janvier, reculé pour mieux sauter.
C'est reculé pour mieux sauter, c'est bien de faire la première partie de Michel Jonas, c'est pas permis à tout le monde.
Je mesure cette chance, crois-moi.
C'est un immense artiste, il fait partie des Michel que je préfère, il y a Sardou, il y a... Michel Jonas, il y a Michel Sardou.
Michel Legrand,
Michel Fugain.
Bien sûr.
Il y en a beaucoup. Michel Polnareff.
Ouais,
je viens de me rappeler comme
il
ça.
Il sort un album, là, un nouvel album.
En plus. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Bon, écoute, on verra. On verra d'ici là. Pour l'instant, je t'ai, on va dire, choisi, on a choisi en même temps un des titres phares de Jonas dans les années 70. Dites-moi. Voilà, dites-moi qu'elle n'est pas partie à cause de moi, etc. Quel moment d'anthologie, quel texte incroyable. Ouais. C'est sur Radio Shalom avec Neil comme invité de marque. Bonne soirée à vous, merci d'être là. De plus en plus nombreux, c'est bien. Continuez.
Elle avait toujours dans son porte-monnaie l'île au trésor et des pièces de 1 franc usées. Un pinceau de poils de marte pour mettre des rideaux bleus aux fenêtres de ses yeux, aux fenêtres de ses yeux. Un livre à la main sur le balcon, elle s'endormait dans un vieux fauteuil de manille. Je cherchais des prénoms, Mathieu, Cécile, en regardant vers 10 heures dans l'école des filles et des garçons. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Dites-moi, dites-moi moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Dans mon cœur vaudou, il y a 4 épingles qu'elle a pris soin d'abandonner pour que je pleure. J'ai cloué ma porte. Qu'est-ce qui m'a pris? J'ai brisé le miroir où elle faisait ses tresses, mis du papier journal sous les fenêtres. J'entendais de l'école trop de cris. Il n'est rien né de notre lit. Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas. Dites-moi ça, dites-moi ça, dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça, dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre.
Michel Jonas, à l'instant sur Radio Shalom, quel titre, quel morceau d'anthologie. Mais tu sais, je viens de faire un rêve sur Radio Shalom, je viens de faire un petit rêve, Lanil. T'imagines si tu chantais cette chanson, mais peut-être pas à l'Espace Broca, à un de ses concerts, je sais pas, peut-être qu'il fait le Zénith, ou il fait des salles quand même, Palais des Sports, le Dôme de Paris. T'imagines, il t'invite et tu fais un petit duo avec lui.
Alors, ce sera plus un rêve de gosse. Ce sera un maxi rêve de gosse.
Là, t'arrêtes ton métier d'avocat.
Exactement.
Et tu te lances dans la chanson directe. Oui. Non, mais bon, je te souhaite. Bah, déjà, t'aurais dû faire. Tu vas la faire, mais tu aurais dû faire sa première partie.
Mais tu sais que j'ai déjà rencontré Michel. J'ai passé 2 jours avec lui.
Alors, quel homme. Nous, on le connaît un petit peu ici. On l'a déjà reçu. Enfin, surtout Bernard. Mais
C'était 2 jours de masterclass où il recevait des chanteurs. Et en fait, il a consacré 48 heures de générosité à nous apprendre l'interprétation. C'est un homme extrêmement sympathique, affable, vraiment accessible. Et j'en garde un très bon souvenir.
Magnifique. Et c'est la première fois que tu le voyais ?
C'est la première fois que je le voyais en vrai.
En vrai, oui, bien sûr. T'as attendu longtemps pour. C'est-à-dire, voilà, tu nous dis, moi, je suis fan depuis des années, depuis ma jeunesse. Et tu l'avais jamais vu avant encore.
Je l'avais vu à tous ses concerts, x3, puisqu'à chaque fois, j'allais le voir 3 fois.
Zénith, au Versailles.
Mais quand j'ai passé 48 heures avec lui, mais tu sais, au bout d'une heure, on oublie que c'est Michel Jonas.
Et tu as autant aimé le Jonas des années 70 quand il chantait Les Wagonnets, dites-moi, que le Jonas des années 80 avec la boîte de jazz.
Moi, mon Jonas préféré, c'est à partir de 2002. C'est un album qui s'appelle Où vont les rêves, qui est très peu diffusé, mais c'est une pépite. Il y a 11 ou 12 morceaux mais qui sont des merveilles. Vraiment, ouais. J'invite les auditeurs à écouter cet album.
Bah, j'espère qu'ils vont te suivre. On va faire un petit peu de pub, Charnil, et on revient avec une autre chanson de Jonas, je crois. Hein. C'est pas les Wagonnets ? Si c'est les Wagonnets, alors, Wagonnets, je comprends pas. C'est un chef-d'œuvre. C'est un programmé chef-d'œuvre. Nulle part.
Oui, il vient d'ailleurs de l'arranger différemment, ah ouais. Et de l'enregistrer dans son dernier album Soul.
Ah ouais, cette chanson, qu'est-ce qu'on a passé même sur la FM des jeunes il y a quelques années, c'est-à-dire sur Radio Show Énergie, ça passait comme la FM, comme dites-moi le bon.
Mais bah, tu sais, le destin des chansons, c'est curieux. Hein.
Bah oui, c'est curieux. En tout cas, on va la réécouter avec un plaisir incroyable. Ah, je pense pour toi aussi. On se fait un petit peu de pub pour juste rentrer un peu d'argent. C'est difficile en ce moment. Et puis on revient juste après avec Jonas et ses Wagonnets. Tout de suite.
Vous êtes sur Radio Shalom. Depuis le 7 octobre, 6000 étudiantes et étudiants de l'Université de Tel Aviv ont été rappelés dans des unités combattantes et se battent sur tous les fronts. Certains sont hélas tombés au combat ou sont blessés. 3000 d'entre eux ont repris le chemin de l'université. 3000 restent mobilisés. Nous, les amis français de l'Université de Tel Aviv, avons mis en place un fonds d'urgence pour les soutenir. Ce fonds finance des bourses d'études et des soutiens psychologiques avec notre faculté spécialisée dans le post-trauma. Soutenez les étudiantes et les étudiants combattants de l'Université de Tel Aviv en donnant en ligne sur allo-don, Association française de l'Université Tel Aviv, et vous recevrez un reçu CERFA.
Participez à l'action don de la Tzedaka FSJU les 17, 18 et 19 novembre. Rejoignez-nous pour 72 heures de mobilisation intense.
Aux côtés de nos parrains Eric Toledano et Olivier Nakache, de nos ambassadeurs et militants, vous aussi, participez à cet élan de solidarité. Chaque don compte.
Unissons-nous pour faire la différence.
Les 17, 18 et 19 novembre, rendez-vous sur actiondon.fsju.org.
actiondon.fsju.org.
Bonjour, c'est Sandrine Schwartz et on se retrouve tous les dimanches à 20h et jusqu'à 20h20 dans Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom.
Vous êtes sur Radio Shalom.
Radio Shalom.
C'est la dernière fois que je dépense pour toi 120 centimes. Toi j'y ajoutais le prix du papier, ta nicotine. Une cartouche entière pour calmer mes nerfs avant d'écrire. Une cartouche qui se fume, une lance en plume pour qu'il transpire. Mes sueurs profondes dans mon cœur la sonde pour qu'il diffuse ses sentiments vagues. Marqué par la bague du doigt qui t'accuse, bague de fiançailles posée sur les rails, coupée net en deux par les roues des wagonnets qu'on pousse l'un vers l'autre, chargé rempli. Les wagonnets qui nous éloignent l'un de l'autre, erreur du destin qui choisit. Les wagonnets qu'on pousse, chargés remplis. Les wagonnets, c'est l'aiguilleur qui tousse, c'est l'heure du destin qui choisit.
Timbre bitéré, ma langue est restée collée dessus. Dans de l'eau détache, ce lambeau qui cache un baiser perdu. Le papier qui brûle, geste ridicule, j'ai renversé sur l'encre d'étude, bleu des mers du sud, le cendrier.
Et pas de suite possible pour cet impossible. Missive confuse, ses sentiments vagues, marqués par la vague du doigt qui t'accuse. Plaque de fiançailles posée sur les rails, coupée net en deux. Par les roues des wagonnets qu'on pousse l'un vers l'autre, chargé rempli. Les wagonnets qui nous éloignent l'un de l'autre,
erreur du destin qui choisit. Des wagonnets qu'on pousse, chargés remplis. Les wagonnets, c'est l'aiguilleur qui tousse, c'est l'heure du destin qui choisit.
Les wagonnets, les wagonnets. Les wagonnets, les wagonnets.
Et tous des wagonnets qu'on pousse l'un vers l'autre, chargés remplis.
Ah là là, ça me rappelle pas mal de souvenirs, de choses. Quand j'ai démarré en radio, moi je programmais, je peux le dire, parce que j'étais fan de Jonas, pas comme toi, mais j'étais fan, j'aimais bien le personnage, j'aimais bien ses chansons. Et puis on l'a découvert avec ses vacances au bord de la mer. Donc,
et cette chanson, c'est génial parce que tu entends le train.
Oui.
Dans l'arrangement, tu entends le train.
Et personne ne s'en rend.
Et même dans les mots, les wagonnets, ouais. Tu entends le train, c'est fabuleux.
Ah, on sent bien le fan, hein, on sent bien.
Ouais, c'est un génie.
T'entends, t'écoutes, perçois des petits sons, tu dis, ouais, bon arrangement et tout. Les wagonnets, donc c'était Michel Jonas dont on parle depuis tout à l'heure. Je vous rappelle pourquoi, parce que effectivement Neil, qui est mon invité de marque, devait faire sa première partie le 9 décembre prochain à l'Espace Broca à l'occasion de la Tzedaka. Et malheureusement, Michel, on ne sait pas pourquoi, a dû annuler ce concert et le remettre.
Voilà, plutôt. Il est reporté début janvier, ça va vite arriver.
Bon, et puis de toute façon, il fait tellement de choses, il est en concert, il est au théâtre. Donc peut-être qu'il a demandé un petit peu de pause avant de reprendre. De toute façon, la Tzedaka, ça dure un mois et demi. Hein. Donc ça démarre le 16 décembre. Enfin, ça démarre, mais le 16
décembre. Oui, puis c'est complet. C'est complet, plus, donc c'est complet. Les gens, on va les accueillir.
Combien de places, l'Espace Broca, 400
Dans les 350, je
350,
crois.
Ouais, quand même. Ça remplit vite, quand même. Hein.
Bah oui.
Et qui est en concert, à part Jonas?
Je sais qu'il y a Bruel.
Bien sûr, il est là tous les ans.
Ouais, il est là tous les ans.
Et peut-être un troisième.
Non, je crois pas qu'il y ait un troisième concert, mais je veux pas dire de bêtises. Peut-être un humoriste, mais je crois pas qu'il y ait de troisième concert. Après, il y a la grande soirée, évidemment, au Palais des Congrès, où là, il y a plein de musiciens
c'est ça.
Qui viennent.
On t'invite souvent à la Tzedaka? Pas encore.
On m'a invité pour la première partie. Après, pour la grande soirée au Palais des Congrès, peut-être l'année prochaine.
Et les radios juives t'invitent souvent chez...
Oui, je suis passé sur Radio J avec Cyrielle, je suis passé chez Sandrine Seban hier. Non, adorable.
Bien sûr.
Et je salue Cyrielle, Sandrine, Julie et toute l'équipe.
Ah, nous écoute. Je suis sûr que Cyrielle nous écoute. Peut-être pas Sandrine, parce qu'elle a des choses à faire le soir. Mais Cyrielle, je pense qu'elle écoute. Voilà,
eh bien, Cyrielle, au plaisir de revenir chez vous prochainement.
Eh oui. Donc, c'est important de le placer. Ça veut dire que les radios juives sont vraiment unies pour cette, manifestation, non, pour cette cause, pour la Tzedaka. Donner, il faut donner.
Donc, voilà, il faut donner, absolument.
17 décembre. On va écouter un de tes morceaux tout de suite, un de tes titres qui sont dans l'album. Mm-hmm. Et celui-là aussi, il tenait à cœur de l'écouter, donc on l'a sélectionné, c'est L'Envol.
Ouais, L'Envol, une chanson sur l'adolescence, en fait.
D'accord.
Donc voilà, c'est l'histoire d'un ado qui s'échappe.
Tu t'es échappé, jeune?
C'est pas forcément autobiographique. Ah,
c'est une histoire.
Ouais, c'est une histoire.
D'accord, on l'écoute tout de suite. L'Envol, c'est Neil sur Radio Shalom, un titre dans l'album. Et on va dire qu'on va l'écouter avec attention, parce que là, moi je suis pour ceux qui prennent leur indépendance comme ça, c'est bien. L'Envol.
Comme un avion qui s'envole en force plaquée sur le sol, je me fais la malle. D'école, partie de risque et console, ma vie banale. Comme une fusée qui décolle, crache en fond, se quitte le sol, je me fais la belle. J'ai franchi le Rubicon, je suis sorti de ma prison, planté la médaron. Faut bien un jour, tu m'étonnes, pouvoir sortir du formol. Tiens sans maudire. Comme une caisse qui démarre, pouvoir larguer les amarres, histoire de voir ce que la vie nous réserve, le destin de nos rêves, de cette histoire. Je m'envole, je décolle, je quitte le sol. Je décolle. les abîmes du profond, je disparais. Vous oubliez ça jamais, un petit coup de fil au mois de mai, c'est promis.